Je remercie tout d'abord la librairie Imola d'accueillir pour la quatrième fois de l'année la conférence de la Société de philosophie de Bordeaux. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés et ont affronté le déluge. Et enfin, je remercie bien évidemment Marina Cerretti pour sa présence. Marina Cerretti est maîtresse de conférence en esthétique et en philosophie de l'art à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle réfléchit sur l'art et est elle-même artiste diplômée des Beaux-Arts d'Angers. Elle a participé à plusieurs expositions collectives et développe une pratique du dessin, de la gravure et de l'écriture en accord avec ses recherches théoriques. Le livre dont elle vient nous parler est issu de son travail de thèse. Marina Cerretti a soutenu son doctorat en 2015 de philosophie et d'histoire de l'art consacré aux figures d'endormis et aux théories du sommeil de la fin du Moyen-Âge à l'aube de l'époque moderne. Et donc, si au fond le sommeil donne à penser, comme le promet la quatrième de couverture, ce n'est pas uniquement du fait que son statut et ses représentations prêtent à discussion, mais c'est aussi parce que sa figuration contient une ressource de sens qui élargit la réflexion thématique et tu accordes une place importante à la valeur métaphorique du sommeil et donc à ses connotations riches et diverses à travers ses représentations picturales. Et donc les éléments scéniques de la léthargie serviraient d'appui symbolique à des questions alternatives. Bien loin de refermer l'enquête sur le champ du repos, les endormis éveilleraient toute une série d'autres sujets qui, au fond, font du livre de Marina Cerretti un voyage qui très très riche. Et plus précisément, l'image du dormeur aurait un potentiel allégorique relayant des questions cruciales sur la spiritualité, l'amour et la mort. Et donc l'ouvrage, en forme d'enquête picturale, se distribue en quatre parties, et j'imagine que Marina Cerretti y reviendra, donc j'en parle évidemment de façon très très succincte. La première plonge ses racines dans la pensée antique et la peinture et la spiritualité médiévale, les autres étant davantage centrées sur la période renaissante. Et donc chacune de ces parties développe le potentiel métaphorique du sommeil, voire allégorique du sommeil, et la première partie de l'enquête s'intéresse au parallèle établi entre le sommeil et l'oisiveté, mère des vices, dirons-nous. Évidemment, je simplifie, et tu raffineras tout cela, par opposition à un idéal de vigilance et de labeur. Et tu montres ensuite qu'à la période de la Renaissance, la valeur métaphorique du sommeil profond se complique de connotations moins négatives. Ainsi, le repos et même une forme de paresse peuvent-ils être valorisés dans des utopies comme celle de More ou Campanella, Thomas More. Et cela se traduit dans la peinture. Alors le sommeil, dans son lien à la figure christique, acquiert une valeur spirituelle, quoique ambivalente. Il revêt surtout une valeur érotique, comme le montre d'ailleurs de façon particulièrement éloquente la reproduction du tableau de Botticelli en couverture. Alors j'en profite pour dire que c'est un beau livre, c'est-à-dire qu'il y a des reproductions dedans, toute une série de reproductions. Et enfin, le sommeil représente métaphoriquement la mort, ce sommeil éternel. Et donc à travers ce parcours, qui m'apparaît être d'une rare et éclairante érudition, riche de nombreuses illustrations et également de commentaires d'œuvres très, très sensibles, le lecteur est guidé, avec à mon avis beaucoup d'élégance et de plaisir, dans un voyage pictural et intellectuel passionnant. Et donc je recommande évidemment la lecture de l'ouvrage de Marina Cerretti, qui sera en vente à la fin de la séance pour celles et ceux qui sont intéressés. Je te cède maintenant la parole.
Merci beaucoup Pierre. Merci à toutes et à tous. Je dois dire pour commencer que je suis vraiment très émue et aussi impressionnée. Voilà, du cadre. Je remercie la Société de philosophie de Bordeaux et évidemment la librairie Imola de m'accueillir ce soir. Et je vous remercie pour votre intérêt et votre présence. Voilà, j'espère être à la hauteur de vos attentes. Donc effectivement, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est issu de mes recherches de doctorat. Et puis, ce sont des recherches que j'ai poursuivies lors d'un master de philosophie, donc dans un séminaire de master de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne où j'enseigne avec Pierre. Donc pour l'introduire, je citerai simplement cette formule que j'emprunte à Stephen Zweig. Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde, les nuits sont plus longues et les jours aussi. il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Propos très actuel, en effet, on ne compte plus les études qui portent aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler le déclin du sommeil. Un déclin dû à plusieurs facteurs, selon les historiens, l'urbanisation, l'éclairage nocturne, donc l'électricité, le travail de nuit, l'industrialisation, et puis aujourd'hui les nouveaux médias, Internet, la téléphonie mobile, qui font de l'économie attentionnelle un enjeu pour le marché et qui, au fond, transforment notre sommeil en une sorte de peau de chagrin qui ne cesse de rétrécir et de tomber en lambeaux. Dans un essai qui a fait date, Jonathan Crary parle du mode veille des ordinateurs, des écrans, en anglais « sleep mode », comme d'un modèle de disponibilité attentionnelle minimale, mais qui se maintient 24 heures sur 24, sans interruption. Fort heureusement, le sommeil résiste encore à un tel modèle, et du même coup, il deviendrait, selon Crary, à la fois l'objet de toutes les prédations et le dernier bastion de résistance aux assauts du capitalisme. Non sans dommage, puisqu'on peut dire, non seulement de la dépression, mais plus largement de l'insomnie et des troubles du sommeil, qu'aujourd'hui, elles sont notre lot quotidien et les maladies de notre époque. Dans mon livre, je pars d'un constat d'ordre plus philosophique et artistique, comme l'a rappelé Pierre. Un constat très simple, tout d'abord, celui de l'éloge massif de la conscience et de la vigilance dans l'histoire de la philosophie, chez Platon, Descartes, et plus généralement, le constat d'une disqualification du sommeil dans l'imaginaire collectif, qui l'associe volontiers à la paresse, à l'oisiveté, à un état de prostration fautif ou maladif, à l'ignorance, à la superstition, pensez, je ne vous la montre pas, mais à la célèbre gravure de Goya, « Le sommeil de la raison engendre des monstres », voire encore au règne de l'opinion, au dogmatisme, vous vous souvenez sans doute de la célèbre formule de Kant, disant, remerciant Hume de l'avoir réveillé de son sommeil dogmatique, autrement dit, la condamnation du sommeil comme figure de la faute morale et de l'erreur ou de l'errance de la raison. Figure éminemment négative qui occulte bien souvent le phénomène, le simple phénomène, le simple fait de dormir, et qui en colore la représentation au point de disqualifier le sommeil dans nos pratiques, comme en témoignent des expressions toutes faites, comme « faire la grasse matinée » ou « tomber de sommeil ». D'ailleurs, c'est le titre d'un très beau livre de Jean-Luc Nancy, « Tombe de sommeil ». D'où la première partie de cet ouvrage qui se consacre à ce que j'ai appelé la chute léthargique. Je m'y intéresse en particulier aux endormis dans l'art de la Renaissance comme figure, métaphore de paresse, d'oisiveté, de mélancolie et d'acédie, un mal très ancien qui affectait d'abord les ermites au désert, puis les moines et enfin les laïcs. C'est d'ailleurs l'enjeu premier de mon livre, au fond, proposer une généalogie de cette disqualification du sommeil. C'est ce que j'ai essayé de faire à partir des images et notamment des représentations artistiques. Remonter aux origines de cette dévalorisation du sommeil dans l'imaginaire occidental. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de m'intéresser à la Renaissance, qui constitue à cet égard une époque charnière, une matrice extrêmement riche au plan visuel et théorique, un nouage entre les traditions païennes et chrétiennes, antiques et médiévales, un nouage qui renouvelle également ces traditions. Alors j'étudie à ce compte des œuvres emblématiques, des chefs-d'œuvre, mais aussi des images qui sont, là je vous montre certaines, un tout petit aperçu des images que j'étudie dans la première partie, mais des images plus populaires, comme vous voyez cette gravure tirée d'un calendrier qui représente l'humeur, le tempérament plutôt, mélancolique, avec cette fileuse qui abandonne son ouvrage et ce paresseux endormi à sa table. Donc, dans cette première partie, je montre notamment comment les règles religieuses, mais aussi médicales,
et éducatives ont très tôt pris en charge la restriction du temps de sommeil et aussi la discipline du corps endormi. Pour limiter ces excès, les excès de sommeil, et limiter également des conséquences jugées moralement, voire pathologiquement négatives. On en trouve l'empreinte jusque dans cette représentation, là, peut-être une image moins célèbre que la gravure de Dürer, dont je vous reparlerai dans un instant. Vous voyez cette image, ce dessin à la plume et à l'encre, dont il sera tiré une gravure et donc qui permettra une diffusion assez large au fond d'une imagerie de la conquête du Nouveau Monde. Vous voyez América, cette belle indolente, belle indigène indolente, qui dort dans son hamac, plutôt qui dormait dans son hamac et dans l'ignorance de son propre péché, en train d'être réveillée par Amerigo Vespucci, qui la réveille et la révèle à elle-même en la baptisant de son propre nom, América. Vous voyez, peut-être que vous distinguez la formule inversée en vue de la gravure qui passe entre les deux personnages. Par ce réveil et donc ce baptême, Amerigo Vespucci fait entrer l'Amérique dans l'histoire, une histoire écrite par et pour l'Occident chrétien. Cette enquête généalogique porte, il faut le souligner, sur le sommeil profond et non sur le rêve ou le songe, ce qui peut sembler paradoxal. Et puis, il faut le dire aussi, ce qui pose un certain nombre de problèmes méthodologiques. Comment savoir que quelqu'un dort vraiment, pour commencer ? A fortiori, comment savoir que quelqu'un dort vraiment dans une représentation, dans une peinture, une gravure ? Les textes font parfois défaut. Et quand il y en a, ils ne suffisent pas toujours à identifier le sommeil, voire à le distinguer du rêve. C'est le cas notamment de la célèbre gravure de Dürer que je vous montrais il y a un instant. En voici un détail. S'agit-il d'un rêve ou pas ? La belle femme nue que vous voyez au premier plan, est-elle surgie de la vision du fantasme du dormeur à l'arrière-plan, vous voyez couché sur un oreiller, ou bien s'agit-il d'une allégorie qui le pointe d'ailleurs du doigt et qui en condamnerait la paresse. D'où la correction, après une enquête très scrupuleuse menée par Panofsky, la correction du titre par Erwin Panofsky, de « Songe du docteur » en « Tentation du paresseux ». Alors, « Songe ou paresse », ce qui est certain, c'est que on a affaire à une image très riche, ambiguë, qui reprend les motifs d'une Vénus à l'antique, déesse de l'amour, et d'un dormeur, notamment le motif de l'oreiller de la paresse, de la paresse comme oreiller du diable. Vous voyez d'ailleurs, grâce aux détails, à l'arrière-plan, un diablotin qui utilise un soufflet qu'il pointe vers l'oreille du dormeur, sans doute pour lui insuffler certaines tentations. Bref, pourquoi diable, si vous me passez l'expression, s'intéresser au sommeil sans le rêve ? Même si, évidemment, je consacre des moments importants dans l'ouvrage à l'articulation du sommeil et du rêve. Pas seulement parce que les études consacrées au rêve étaient pléthoriques, mais plus sérieusement, parce que le rêve assure déjà la relève du sommeil comme état de déchéance, perçu davantage, sommeil profond, perçu comme état de déchéance. Le rêve poursuit la vie psychique par d'autres moyens que ceux de la conscience ou de la pensée rationnelle, et on peut dire que, au fond, le rêveur est toujours encore un penseur. En contrepartie, le sommeil profond, sans rêve, paraît vide, au mieux insignifiant, au pire, dangereux, puisqu'il coupe momentanément le fil de l'identité personnelle, grand problème philosophique. Et j'en veux pour preuve une nouvelle du XVe siècle qui m'a passionnée, qui témoigne de manière magistrale de cet exil à soi-même par le sommeil. On en a plusieurs versions. Il s'agit de la Novella del Grasso Legnaiolo, la nouvelle du gros menuisier, qui se passe à Florence. Et parmi ses protagonistes, vous trouvez Donatello et Brunelleschi. le grand architecte du dôme de Florence. Brunelleschi décide de jouer un bien mauvais tour à l'un de ses compagnons de table, qui ne se rend pas à dîner. Donc, pour le punir, il décide de lui jouer la farce suivante, le faire douter de sa propre identité, lui faire douter, l'amener à penser qu'il n'est plus lui-même, mais qu'il est un autre. Alors, notamment en le désignant d'un autre nom, Manetto sera désigné comme par jeu de mots Matteo, mais plus encore, en bouleversant, en saccageant son sommeil, d'abord par l'insomnie d'une nuit blanche passée en prison pour les dettes d'un autre, et puis ensuite par un sommeil extrêmement lourd, un sommeil de plomb, on lui verse du vin avec de l'opium, bon, et à son réveil, il ne sait plus distinguer le rêve de la réalité, et il ne sait tout simplement plus qui il est. Ce qui m'a intéressé dans ce récit, dont je me sers aussi comme d'un fil rouge à travers l'ouvrage, ce sont les métaphores. Le dormeur est comparé au stade fœtal, l'amnésie du fœtus dans le ventre de la mère, un sommeil très profond. Au stade bestial, ses ronflements, au stade de choses qu'on transporte, on réifie, on transporte, puis de cadavres, puisque le dormeur est transporté vers son lit comme vers son tombeau. Au fond, c'est comme si l'énigme du sommeil profond, impossible à être décrit en première personne, trouvait à se dire à travers des métaphores, susciter des métaphores, ici celle du fœtus, de l'animal, de la chose et du cadavre. C'est précisément ce qui m'intéresse dans les représentations artistiques et visuelles du sommeil, qu'elles soient négatives, comme pour cette première partie, ou plus positives et ambiguës. D'où le second enjeu de ce livre, qui vise non seulement à proposer une généalogie de la disqualification du sommeil, mais aussi à mettre au jour les ferments critiques d'une vision plus riche, plus positive et plurielle également, plus nuancée du sommeil. Pour reprendre l'expression que j'emprunte à Jean-Louis Chrétien, ouvrir le polyptyque des sommeils. Car de fait, les figures d'endormis sont bien plus nombreuses et variées qu'on pourrait le croire. Et j'en examine beaucoup dans les livres dont je ne vous parlerai pas ce soir. Il y a la torpeur d'Adam, qui d'ailleurs n'est pas en réalité, pendant la création d'Ève, qui n'est pas tout à fait un sommeil, le sommeil supposant la fatigue du premier homme après le péché originel. Pardon, je vais trop vite. Mais quantité d'autres représentations que je ne vous montre pas, je vais simplement les lister très rapidement. Pensez au sommeil de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, aux apôtres à Gethsémani, aux paysans laborieux, aux nymphes, aux Vénus endormies, au sommeil d'Holoferne, de Samson, d'Endymion, d'Ariane, etc. Bon, au pays de Cocagne, bref, une foule de dormeurs. Et d'ailleurs, je vous lance ce petit défi. Si vous vous intéressez à la chose, vous verrez quand, dans n'importe quel musée, vous en trouvez. Peut-être qu'ils échappent à l'attention au premier abord, sans doute parce qu'ils dorment tout simplement. Mais quand vous mettez à les chercher, vous les voyez littéralement partout. Et jusqu'à cet étrange sommeil de Saint Jean. Alors là, ce sommeil m'a particulièrement intéressée. Il ouvre, je lui consacre tout un chapitre au début de la seconde partie de l'ouvrage qui s'intéresse davantage à la fécondité spirituelle du sommeil, comme le disait Pierre en introduction, d'ailleurs, montrer la positivité et la latence spirituelle du sommeil de manière plus allégorique, au fond. Et ce qui m'a intéressé dans le sommeil de Jean, tout d'abord, c'est que il paraît tout à fait incohérent ou incongru par rapport à la scène qui se joue, et puis on n'en trouve pas mention dans les évangiles. Bref, il semble être l'invention des peintres. Je vous en montre ici seulement trois détails, mais pourquoi est-il incohérent ? Bien parce que Jean s'endort pendant la dernière scène, c'est-à-dire au moment où le Christ annonce qu'il va être trahi par l'un de ses disciples, et puis au moment où s'instaure, au fond, la première messe, l'institution du rite eucharistique. C'est comme l'a souligné un historien d'art, ce n'est vraiment pas le moment de piquer du nez. C'est ce que fait Jean dans la peinture. Alors, je ne vous donne pas toute l'enquête ici, faute de temps, bien sûr, mais je vous donne simplement un indice. On trouve dans la tradition exégétique, notamment chez Augustin, chez Thomas d'Aquin, l'idée que Jean, par distinction complémentaire, pas seulement opposition, mais avec Pierre, l'apôtre Pierre, serait une figure de la vie contemplative, hein, par distinction avec la vie active. Et cette exégèse se fonde sur la formule de l'Évangile qui nous présente un Saint Jean actif, éveillé, mais couché sur le sein du Christ, in sinu Christi, sur le sein du Christ. Alors dans la peinture, en revanche, ce qu'on voit à travers si on peut jouer le scénario comme ça, à travers plusieurs siècles en réalité, on voit Saint Jean les yeux ouverts, qui se tient même parfois droit à table, qui se couche et ferme les yeux, donc en se couchant contre le sein du Christ, et puis parfois, comme vous le voyez dans cette peinture de Tintoret, hein, qui se couche littéralement et qui dort bras croisés sur la table. Alors, dans les trois détails que je vous montre, vous pouvez déjà voir comment les peintres donnent forme à ce sommeil qui revêt, sans doute via la figure de la vie contemplative, une dimension mystique. Chez Andrea del Castagno, vous voyez que le sommeil est placé vraiment au centre des regards, au centre des regards du Christ et de Judas. Le Christ qui est en train de bénir la bouchée de pain fatidique, c'est-à-dire l'hostie, et l'auréole de Jean, couché sur la table, touche précisément cette bouchée de pain que saisit Judas. Ce qui fait également que Jean est placé en quelque sorte sous la bénédiction du Christ. Dans la gravure de Dürer, c'est encore une autre figure, une autre forme de sommeil mystique, davantage celle du ravissement. Vous voyez que Jean est pris dans l'étreinte du Christ, au point que son corps se confond avec le drapé, si nous, en latin, renvoyant d'ailleurs au pli textile et pas seulement à la poitrine, pli textile et à l'intériorité du Christ, il accède par ce ravissement au mystère de la Passion. Puis, dans le petit détail de l'une des scènes de Tintoret que je vous montre, vous le voyez couché sur la table, bras croisés, mais le Christ pose encore sa main sur son épaule et, au fond, la quiétude de Jean le distingue de l'agitation inquiète qui est en train d'assaillir les apôtres avec, vous voyez, cette chaise violemment renversée, chaise de paille renversée au premier plan. Donc, au fond, le sommeil de Jean figure un peu l'œil du maelstrom, le calme dans la tempête et la confiance de la foi. Dans la deuxième partie du livre, je m'intéresse également à une iconographie que certains, qui a été jugée par certains paradigmatique du sommeil et même du sommeil coupable, c'est l'iconographie des apôtres endormis à Gethsémani, au Mont des Oliviers. En fait, c'est au fond la séquence suivante du dernier repas que le Christ partage avec ses disciples, puisque avant son arrestation et sa crucifixion, comme vous le savez, il se rend pour prier au Mont des Oliviers, et à ce moment, là aussi, passez-moi l'expression cruciale, eh bien, les trois apôtres qui l'accompagnent, au lieu de prier avec lui, s'endorment par trois fois, hein. Pourtant le Christ les avertit, hein. La chair est faible, prier, éveiller, bon, les apôtres s'endorment, pourtant, et le Christ lui-même est à l'agonie, hein. Il demande à Dieu, si tu le peux, écarte cette coupe, et sinon il l'accepte. Donc, paresse, négligence, l'hypothèse que j'ai tâché de soutenir dans ce chapitre, c'est de ne pas justement rester seulement à ces notions de paresse et de négligence pour faire valoir autre chose. L'idée qu'on trouve d'ailleurs dans l'évangile de Luc, l'idée d'un sommeil de tristesse qui est davantage lié à la mélancolie, et au fond, au deuil, à l'imminence du deuil. et de la mort du Christ. Sommeil de tristesse qui fait écho à la plainte du Christ, à l'agonie. Mon âme est triste à en mourir. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'étude de ce sommeil de tristesse, au plan pictural ou plastique, même pour la gravure et le dessin ici, c'est d'observer comment ce sommeil de tristesse en vient à minéraliser le corps des apôtres, en jouant sur une correspondance formelle entre le repli du corps endormi, du corps des dormeurs, la cassure, les plis des drapés, et puis les plissures des rochers, ici même de l'entablement rocheux. À droite, d'ailleurs, dans la petite passion de Dürer, dans la gravure de la petite passion, vous voyez Saint Jean qui est au fond en train de sécher ses larmes ou de pleurer et de s'endormir dans ce sommeil de tristesse, hein, comme à la manière des pleurants. Et puis, en quelque sorte, par contrepoint, en contrepoint avec ces corps minéralisés par le sommeil, vous voyez le corps prosterné, non plus prostré, mais prosterné du Christ, qui semble s'envoler, hein, prendre son envol. Alors, cette analogie entre le sommeil et la pierre, analogie plastique, formelle, évidemment, elle m'a aussi emmenée vers d'autres œuvres très célèbres, en particulier la fameuse Nuit de Michel-Ange et Les Esclaves de Michel-Ange, restés inachevés, comme prisonniers de leur gang de marbre, dont ils semblent s'éveiller en luttant. Alors, on est toujours ici dans l'art religieux, l'art funéraire, mais la source est moins chrétienne que néoplatonicienne. Je n'ai pas le temps de développer toute l'analyse ici non plus, mais ce qui m'a passionnée dans cette étude, c'est au fond le point de rencontre entre le style d'un artiste, d'un immense artiste, et la portée éthique et métaphysique de son geste. André Chastel parle, à juste titre, d'un non finito, l'inachèvement des esclaves de Michel-Ange, inachèvement encore présent dans la nuit de Michel-Ange également, un non finito éthique. Pourquoi éthique ? Eh bien, parce que l'inachèvement, le non finito de ces sculptures, n'est pas seulement une forme esthétique qu'on peut juger sublime et qui contribue à l'effet d'animation de la forme qui émerge de la matière, mais cet inachèvement, non finito, il engage le combat de l'âme aux prises avec la matière. Matière conçue précisément en termes de torpeur et de passivité. Michel-Ange fait sienne la métaphore platonicienne du fleuve de la matière, métaphore reprise à la Renaissance par Ficin notamment. Fleuve de la matière comparé au Léthé, ce fleuve des enfers où les défunts boivent de longs oublis, plongent dans la narcose d'un oubli total. Au XVe siècle, on la retrouve notamment, cette métaphore, sous la plume d'un poète et commentateur de la Divine Comédie, Cristoforo Landino, un commentateur néoplatonicien, pour interpréter la fameuse forêt obscure, la selva oscura, dans laquelle se perd le poète. En d'autres termes, la vie sensuelle, la vie menée selon le corps et dans un corps, la vie incarnée, menée ici-bas, serait comparable à un puissant narcotique, dont seul nous délivrerait l'éveil de la raison et plus encore l'amour. Comme l'écrit Marcille Ficin dans son grand commentaire au banquet de Platon, « Amour éveille ce qui dort ». D'où la troisième partie de cet ouvrage, « Eros et Hypnos », consacré à la relation précisément entre le sommeil et l'amour, et où je tâche de dessiner les linéaments d'une érotique du sommeil, notamment en m'intéressant aux belles endormies, la fameuse Vénus de Giorgione et Titien et d'autres belles endormies. Je fais aussi une place aux dormeurs masculins. Et cette partie commence par une étude que je consacre au De Amore de Ficin, donc ce grand commentaire du banquet de Platon, De Amore, qui circule largement dans les cours européennes et auprès des artistes, notamment, entre le XVe siècle et le XVIe siècle. J'examine alors les concepts ficiniens de splendeur et de fascination pour interroger le corps des belles endormies, hein, la représentation de ces belles endormies et le pouvoir érotique qu'elles exercent sur le spectateur. Alors, de quoi s'agit-il ? La splendeur et la fascination. La splendeur, c'est le rayonnement d'un corps harmonieux capable de refléter la lumière divine. Le beau et la splendeur du bien, selon Ficin. La splendeur saisit d'amour, le corps resplendissant saisit d'amour celui qui le rencontre et qui le voit, et il nous entraîne vers l'amour divin. La fascination, à l'inverse, constitue une sorte d'empoisonnement par le regard. Une maladie de l'œil, mal d'occhio, selon Ficin, un empoisonnement par le regard qui pervertit l'amour et qui nous ramène, nous fait tomber dans un désir charnel, bestial. D'où un problème qui m'a beaucoup occupée et qu'on pourrait résumer ainsi, en refermant les paupières de Vénus. Le sommeil suffirait-il à neutraliser la fascination et à produire la dynamique ascensionnelle de la splendeur et de l'amour divin ? Le point est d'autant plus crucial pour la peinture que la splendeur maintient à distance dans un état contemplatif, tandis que la fascination, elle, pousse le spectateur à s'emparer de l'objet du désir. D'où un ingénieux dispositif mis en œuvre par Cranach. Ici, dans ce tableau, il y a toute une série des nymphes à la source de Cranach. Alors, vous voyez une nymphe qui s'est déshabillée. Vous voyez nettement la robe. Elle n'est pas nue, elle est déshabillée. La robe chiffonnée qu'elle place sous sa tête en guise d'oreiller. Elle s'est attardée dans un petit bois, une sorte de paradis nordique, une source, une ville fortifiée à l'arrière-plan. Et c'est bien d'une femme déshabillée qu'il s'agit, même si un mince ruban transparent court sur ses hanches sans masquer précisément son sexe. Bref, tout est fait pour inviter le spectateur à se rapprocher de la toile. Or, lorsqu'il se rapproche de ce tableau, que voit-il ? Eh bien, il peut lire dans l'encadrement en haut à gauche du tableau, il peut lire une inscription latine que je traduis pour vous. « Ne trouble pas le repos de la nymphe à la source sacrée. » En quelque sorte, au moment où il s'approche et où il lit l'interdit, il est déjà trop tard parce que, précisément, une fois rapproché du tableau, il peut s'apercevoir d'autre chose, c'est que cette nymphe a les yeux entrouverts. Elle est en train de se réveiller. Au fond, il a déjà transgressé l'interdit. Et en transgressant l'interdit, il a animé le tableau, ou la peinture, la nymphe et le tableau lui-même, puisque cette formule, au fond, elle fait parler la nymphe ou le tableau. Au fond, vous voyez, Cranach élabore ici un tableau piège où le sommeil et l'inscription permettent d'animer la peinture, de la rendre en quelque sorte vivante. Et cette formule renvoie, il faut l'ajouter, à l'époque, au mythe de la fontaine de Castalie. Donc le spectateur cultivé, l'humaniste lettré, se rappelle de ce mythe. Il s'agit donc d'une source dans laquelle se serait noyée une nymphe en fuyant les ardeurs d'Apollon, et cette source aurait été ensuite consacrée aux muses. Et à l'époque de la Renaissance, la nymphe à la source, la nymphe endormie à la source, est devenue, depuis ce mythe, l'emblème de l'inspiration artistique. On la trouve dans les jardins, notamment de la Renaissance. En d'autres termes, ce qui s'élabore dans ce tableau, c'est une réflexion métapicturale sur les pouvoirs de la peinture, qui s'opère à travers la dialectique de la fascination et de la splendeur, d'un regard contemplatif et de la distance contemplative, d'une part, et puis du détail voluptueux, d'autre part. Dans cette partie, j'accorde aussi une place centrale à la fable d'Amour et de Psyché. Une fable qui connaît un très grand succès dans l'art de la Renaissance et qui donne lieu à de nombreuses représentations d'endormi, à commencer par le sommeil. Alors, il y a le sommeil, effectivement, d'Eros, hein, d'amour, mais je vous montre ici le sommeil de Psyché elle-même. Psyché qui symbolise, depuis son nom grec, l'âme humaine, réveillée chaque nuit par un dieu d'amour invisible qu'elle n'a pas le droit de voir et qui sera récompensée, après bien des épreuves, par un mariage divin. Divinisation de Psyché. Or, au fil du temps, on voit cette héroïne néoplatonicienne basculer de ce haut rang à celui d'objets érotiques, notamment dans cette gravure que je vous montre à gauche, gravure des amours des dieux, où, comme vous pouvez vous en rendre compte, Psyché endormie, vient dédoubler sensuellement le corps de Vénus, que l'on peut voir en quelque sorte sous toutes ses coutures. Vénus qui bascule encore à son tour depuis cette série des amours des dieux, jusque dans les planches anatomiques d'un traité d'obstétrique, celui de Charles Estienne en 1545. Vous voyez qu'elle sert de prétexte à un érotisme macabre, hein, permettant de voir ouverte la matrice féminine. Psyché étant, et Vénus, bien sûr, sont en quelque sorte victimes de leur succès. Le sommeil de Psyché ne sert plus la cause de l'éveil divin, mais au fond, celui d'un érotisme très sensuel, voire macabre. Dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est précisément cette analogie du sommeil et de la mort qui m'intéresse et que j'interroge à travers la métaphore très ancienne du dernier sommeil, remise sur le métier par les artistes, les philosophes et les théologiens de la Renaissance. Alors cela donne lieu à des thèmes iconographiques et des figures très variées, le triomphe de la mort, la dormition de la Vierge, le gisant, le transi, le dormant qu'il faut d'ailleurs distinguer. Mais le temps étant compté, je ne vous en livre ce soir que trois aspects. Tout d'abord, pour revenir à cette analogie du sommeil et de la mort, analogie qui se fonde en réalité en partie sur la fraternité d'Hypnos et Thanatos dans la mythologie grecque, mythologie et donc fraternité pardon qui est presque une gémellité. Cette analogie qui fait donc de la mort et du sommeil deux frères possède une visée bien sûr morale, pratique, consolatrice. On peut dire que le dernier sommeil, la métaphore du dernier sommeil, euphémise la mort. C'est une analogie très puissante, séduisante, qui domine les arts funéraires et dont Montaigne, dans ses essais, pointe les limites. Alors, non pour la rejeter en bloc, mais plutôt pour faire valoir à sa valeur de vérité restreinte et littérale. Au fond, il nous invite à revenir du figuré au littéral, en s'intéressant à ce que c'est que dormir et tout d'abord même s'endormir. L'endormissement, selon Montaigne, ne nous apprend de la mort que l'approche. Il nous apprend au fond à nous déprendre de nous-mêmes. Et si elle nous apprend quelque chose de la mort, ça n'est jamais que l'amorce d'un mourir qu'on pourrait dire sans mort. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que s'il réfute la métaphore du dernier sommeil, c'est au nom de l'expérience même, littérale, du sommeil. Et je vous montre ici en miroir, en quelque sorte, cette gravure qui pourrait illustrer certains mots de Montaigne, nous enseignant à vivre toujours beauté, précisément parce que, ici, vous voyez que la mort endormie peut à tout moment se réveiller, mors improvisa, elle peut à tout moment nous surprendre. Gravure qui, en quelque sorte, renverse l'analogie du sommeil et de la mort. Cette analogie, elle produit aussi des effets esthétiques. Alors, ici, je ne vous présente pas d'image, je resterai plus théorique. Elle produit des effets esthétiques en rapprochant le sommeil et la mort représentés au point de les rendre parfois indiscernables, ce qui va progressivement constituer un problème pour les artistes. En bref, comment distinguer la représentation d'un dormeur de la représentation d'un cadavre? C'est d'autant plus problématique lorsqu'on considère la finalité qui est celle de la peinture à la Renaissance, notamment chez Alberti, qui est de rendre présents les absents et de les maintenir en vie, en quelque sorte, par-delà la mort. Dès lors, la figuration du sommeil se trouve prise dans une sorte d'état incertain, d'entre-deux, entre le mouvement de la vie et l'immobilité de la mort. Toute la difficulté revient à peindre la vie propre du dormeur, du corps endormi, sans pour autant le doter de la tension musculaire de l'état de veille, ni de la rigidité cadavérique. Chez Alberti, Vasari, Léonard, on trouve ainsi exposées les coordonnées d'un problème artistique et des solutions possibles sont à chaque fois avancées en termes de composition, en termes de couleur, de chromatisme ou bien de dessin. On assiste donc à l'élaboration d'un critère esthétique qui ne sera d'ailleurs pleinement constitué que bien plus tard. On le trouve pleinement constitué, par exemple, chez Diderot, qui signale la médiocrité du peintre précisément par son incapacité à différencier le dormeur du cadavre, le sommeil de la mort. Et selon Diderot, un tel peintre médiocre ne possède précisément pas le sens de la chair. Pour autant, à l'époque qui nous occupe, le paradigme demeure encore celui, au fond, paradigme divin, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, une ambiguïté riche de sens, celle d'une mort dont on est appelé à se réveiller et d'un sommeil qui préfigure la mort. Au plan théologique, pourtant, cette image du dernier sommeil pose à son tour problème, car que se passe-t-il entre dans l'intervalle qui sépare la mort individuelle et la décomposition du corps mortel et le jugement dernier, jugement collectif, la résurrection? Dans cet intervalle, qu'advient-il de l'âme désincarnée? Qu'advient-il de l'âme entre la mort du corps et puis les retrouvailles avec son corps glorieux? Et s'agit-il même, tout simplement, d'un intervalle de temps? Est-il susceptible d'une durée et des états psychologiques qui vont avec cette durée, de l'attente des justes pouvant être une impatience joyeuse et puis l'attente des damnés, évidemment, une angoisse terrible. L'intervalle n'étant pas le même pour le premier homme, Adam, et pour le dernier. Ces questions sont au cœur des polémiques de la réforme qu'entraîne la réforme protestante. Elles opposent notamment Luther, Calvin et Zwingli. Pour y répondre, Luther, dont vous voyez ici le dernier portrait en endormi, forge la métaphore du sommeil de l'âme. Là aussi, une métaphore qui m'a beaucoup intéressée. Luther, à travers cette image, compare l'état de l'âme désincarnée à un sommeil total. Il nous dit sommeil total, absolu, sans égal ici-bas, et qui rend, au fond, l'âme des défunts sourde à toute prière et aveugle aux destinées humaines. Il n'y a donc plus de communication possible entre les vivants et les morts. Et Luther précise, quand ils seront réveillés de se dormir, il ne leur semblera pas avoir dormi une seule minute. À travers cette métaphore, Luther réfute l'idée même du purgatoire, comme salle d'attente, si on peut dire, de l'enfer ou du paradis. Luther en donne d'ailleurs une version populaire assez drôle, que je vous rapporte, on la trouve dans ses propos de table. Quand vous partez en bande pour aller à Leipzig, les uns à 4 heures, les autres à 7 ou à 8, avant d'y arriver, il vous faut tous coucher le soir à Düben. De même, les patriarches sont arrivés un moment avant nous, mais ils n'auront pas reposé plus d'une nuit, tout comme nous. Alors, si vous avez suivi ce raisonnement, vous avez compris qu'il y avait sans doute une excellente auberge à Düben, mais aussi, et plus sérieusement, que, au fond, il n'y a pas d'intervalle de temps entre la mort individuelle et le jugement collectif, hein, et que le sommeil de l'âme échappe par principe à toute mesure temporelle. La nuit des uns et des autres n'aura pas duré plus d'une minute, qu'il s'agisse d'Adam, d'Abraham ou de Luther lui-même. Alors, pour conclure en peu de mots, à partir de cette traversée de l'ouvrage, disons que le sommeil profond, par la richesse et la diversité des figures qu'il suscite, j'espère vous en avoir donné un aperçu, est loin de se réduire à une parenthèse vide. L'art de la Renaissance, me semble-t-il, en témoigne avec force. Et lorsque la parenthèse se referme, c'est peut-être que nous sommes déjà arrivés à l'auberge de Düben. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Merci beaucoup, Marina. C'était passionnant. Et en effet, la figure du sommeil profond exclut la question, la figure du rêveur. Mais à mon sens, on pourrait faire une histoire absolument parallèle de la figure du rêveur entre le rêve absence à soi ou le rêve porteur d'une certaine vérité. Tu parlais de Diderot dans le rêve de D'Alembert. Ou bien la vérité latente qui se traduit symboliquement dans le rêve chez Freud, etc. Donc il y aurait aussi, à mon sens, quelque chose à faire en la matière. Mais je voulais revenir sur un point que tu évoques à un moment donné. Enfin, j'ai ce sentiment-là, parce que tu as beaucoup travaillé sur les pouvoirs de l'image. Et du coup, il y a une question que j'aimerais te poser qui est la suivante. Parce qu'au fond, on peut s'interroger, d'autant que parfois tu présentes des gravures, sur la valeur illustrative des images. Est-ce que les images seraient simplement des illustrations ou une incarnation d'une pensée? Ou est-ce qu'au fond, les images ne sont pas très souvent, et bien plus souvent, une pensée en elle-même ou une pensée en acte? Il n'y a pas besoin de chercher la pensée à l'extérieur d'elle, elles sont en elles-mêmes une pensée active. Et donc, est-ce que tu pourrais justement essayer de peut-être de revenir là-dessus et sur ce que tu penses en fait du fonctionnement des images, soit comme illustration d'une pensée qui leur serait extérieure ou comme de la pensée active en elle-même, quoi?
Oui, ah ben c'est très vaste question, mais très, très belle question. Tu as raison. Merci. C'est effectivement. Alors, Alors, effectivement, d'abord, première réponse à cela. Là, j'emboîte le pas, d'une certaine manière, d'un certain nombre d'historiens d'art, comme Daniel Arras et d'autres, hein, mais qui ont souligné le fait que l'iconographie, c'est-à-dire les sources textuelles d'une œuvre d'art, ne suffisent pas toujours à en déployer la richesse. Donc là, je serais assez d'accord avec Arras, mais au sens où les textes sont d'une importance cruciale, évidemment, mais si les images ne servaient qu'à les traduire, au fond, on n'aurait pas besoin de les voir. Et elles déploient, bien sûr, la pensée d'un artiste qui pense en images, il pense pas seulement en traducteur ou en philosophe, il pense, mais effectivement avec des images. Et puis avec des figures, avec des couleurs, avec du dessin. Alors ça peut se faire d'ailleurs à l'insu, je dirais, du peintre. Moi, ce qui m'a, il y aurait beaucoup de manières de répondre à ta question, mais ce qui m'a passionné, c'est le fait que au fond des malentendus peuvent aussi générer du sens. Il y en a un qui est très célèbre, qui ne concerne pas véritablement mon champ, puisqu'il s'agit, enfin, ou plutôt qui le concerne en partie, c'est le fameux sommeil de Jessé, qui n'en est pas un, précisément parce que Jessé s'endort, et effectivement, dans la prophétie d'Ésaïe, on trouve l'idée que sa descendance est figurée par la croissance d'un arbre, puis les images qui vont en être données, cette figuration de la croissance de l'arbre, vont par, d'une certaine manière, une forme de confusion visuelle, engendrer l'idée que Jessé s'est endormi et a la vision de cette descendance qui lui est donnée, au fond, qui serait donnée en songe, tout comme c'est le cas du songe de Jacob. Donc, il peut y avoir comme ça des effets de malentendus féconds. Évidemment aussi que je pense que l'artiste et certains artistes, pour certains artistes, il y a une pensée qui se déploie très consciemment et qui se déploie avec parfois beaucoup d'humour ou beaucoup d'érudition. C'est le cas, alors, notamment, évidemment, pour j'ai présenté une œuvre de Michel-Ange ici, La Nuit de Michel-Ange. Pour la Nuit de Michel-Ange, on possède non seulement des sources textuelles qui sont celles de l'artiste lui-même, qui invente, que ce soit d'ailleurs pour la nuit ou pour le songe de Michel-Ange ou d'autres images, il invente tout simplement une iconographie qui n'existait pas avant lui. Et il la porte également, on peut en trouver des résonances dans ses poèmes. Donc là, on a affaire à plusieurs œuvres d'art. C'est pas seulement un texte qui serait plus lisible et puis une image qui serait plus difficile à traduire, à comprendre et pour laquelle il faudrait remonter au texte. Mais on a au fond un poème qui est une œuvre d'art et puis ou des poèmes et puis des images qui se rencontrent mutuellement. D'où ce fameux vers qu'on a associé à la Nuit de Michel-Ange, Caro me sono e più l'esser di sasso. Le sommeil m'est cher et plus encore l'être de pierre. Et c'est un jeu très fin qu'il introduit en réponse poétiquement. En réponse, il fait parler la nuit, hein, c'est une prosopopée de la nuit. Et en réponse à un autre poète, Strozzi, qui avait cru bon de louer la nuit et la beauté de la sculpture de Michel-Ange en disant au spectateur, il vous suffit de lui parler, elle s'éveillera, elle vous répondra, etc. Michel-Ange répond au fond, laissez-moi dormir. Hein. J'entre pas dans le détail politique même qui est à l'arrière-plan de ce sommeil, mais il l'anime depuis son sommeil et en la laissant se retirer dans le sommeil de la pierre. Puis ce jeu d'animation est très intéressant au plan des pouvoirs de l'image. Il va être à nouveau porté. Vous voyez, on passe d'une sculpture à un poème, et puis ensuite il sera porté par d'autres textes et encore d'autres œuvres, parce que la nuit, il y a aussi toute une migration des images, c'est-à-dire que la Nuit de Michel-Ange, elle va entraîner la diffusion d'un imaginaire et sa répétition, elle va essaimer au fond dans les arts visuels, et puis on va trouver dans un autre ouvrage ce petit récit que je trouve absolument magnifique, qui présente les premiers touristes, hein, mais c'est très tôt, hein, mais c'est un texte d'Oni, dans les marbres d'Oni. C'est une sorte de premier ouvrage touristique des grands lieux, des hauts lieux de l'Italie, et puis un des personnages qui s'extasie devant l'aurore, la jumelle de la nuit de Michel-Ange, enfin au fond sa sœur plutôt, est statufié, il ne peut plus parler, il est pétrifié. Et son compagnon lui dit bah, aurais-tu donc été changé en pierre par la statue? Et là l'aurore prend la parole, évidemment, en disant bien autrefois, donc je réveille le spectateur, hein, je l'ai médusé en quelque sorte, puis je réveille le spectateur, mais autrefois, ce fut le cas de la nuit qui a pétrifié, qui est plus vivante au fond que les spectateurs qui viennent la contempler, et qui avait pétrifié un de ses spectateurs, et Michel-Ange aurait dû intervenir au ciseau pour venir interrompre le regard de Méduse, en quelque sorte, l'effet Méduse de la peinture, de la sculpture qui dort. Puis cette petite anecdote renvoie à un repentir en réalité dans le coup de la nuit de Michel-Ange. Mais bref, vous voyez, donc quand on rentre dans l'analyse d'une œuvre et de sa de sa charge symbolique et puis de son interprétation, on n'en finit pas de tresser et de détresser, au fond, les rapports du texte et de l'image. Bon, donc, je ne vise pas nécessairement à me débarrasser des textes, au contraire, mais pour m'intéresser aux détails et à la manière dont les images signifient elles, par elles-mêmes.
Merci beaucoup. Et puis, une image que tu as montrée aussi, la Vénus d'un tableau de la Vénus de Cranach, qui est aussi, je trouve, une très bonne illustration de cette peinture qui se met à s'animer. Et on est à deux doigts de s'imaginer aussi les pensées de la nymphe. Alors, oui, et puis, tu parles beaucoup de la valeur symbolique, métaphorique, allégorique, analogique, en fonction des cas, du sommeil. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'au fond, la figure du dormeur, c'est toujours une figure d'un personnage dont la pensée se dérobe. Est-ce qu'on pourrait pas le considérer, voir là, comme une sorte d'image, justement, de représentation métaphorique de la peinture, au fond, qui est à la fois visible et invisible, c'est-à-dire que beaucoup de choses se présentent et se dérobent en même temps. Tu parles beaucoup du pli, de la figure de Saint Jean dormant, etc. J'aimerais peut-être entendre là-dessus, quoi. Enfin, sur le fait qu'au fond, il y a du visible, mais peut-être que l'essentiel se dérobe en réalité.
Oui. Alors voilà, c'est vrai que là aussi, c'est un peu le fil constant de l'ouvrage, s'interroger sur l'invisible qui trame le visible, parce que un corps étendu et qui peut parfois occuper vraiment sa place dans l'image, c'est d'une certaine manière quelque chose de très opaque, tout simplement. Donc il y a une opacité du corps endormi qui est comme un sceau, et comme un chiffre. Donc il y a toute la... Je m'intéresse aussi bien sûr à la part du littéral et au phénomène du sommeil, puis à ses poses, ses postures, comment dort-on à travers les images, puis en même temps à l'autre part ou la part cachée, cette manière, on peut appeler ça le chiffre, mais disons la manière dont la posture même du corps endormi, l'environnement qui est le sien, les figures de veilleurs qui peuvent être placées autour de lui, vont le charger de sens ou le charger de valeur et le faire signifier. Et au fond, l'entraîner à jouer le rôle de métaphore. Bon. Donc c'est toujours cette double part qui m'intéresse beaucoup, comme effectivement j'ai essayé de vous l'exposer assez rapidement, mais dans l'exemple de Jean. Alors si on veut aller un peu plus loin, j'en parle également dans la partie dans la troisième partie de l'ouvrage au sujet de l'érotisme léthargique. On pourrait poursuivre, c'est une sorte de ligne de fuite de l'ouvrage, on pourrait poursuivre la réflexion jusque dans des peintures plus récentes ou disons plus modernes. Bon, je pense ici à un concept que j'utilise également, mais qui a été forgé d'abord pour la peinture du XVIIIe siècle et par un théoricien de la peinture qui s'appelle Michael Fried. Michael Fried parle de l'absorbement pour parler de cet effet qui se produit dans la peinture, notamment la peinture française, et en lien avec la critique d'art et la critique de Diderot notamment, dans la peinture française, cet effet d'étrange négation du spectateur qui s'opère lorsque une figure, un personnage s'absorbe dans une activité au point de faire fi. C'est comme si il tournait le dos, il fait fi du spectateur, et au fond, c'est comme s'il n'était pas fait pour se donner en représentation. Bon, donc l'absorbement ou l'absorption jouant contre la théâtralité qui serait le cadre de la représentation. Évidemment, l'acmé, la figure d'absorption par excellence, c'est l'endormi. Il y a le joueur de cartes, le lecteur, d'autres figures, l'enfant concentré dans son jeu. Bon. L'endormi s'absorbe à ce point en lui-même qu'il s'échappe en quelque sorte à lui-même. Il s'oublie. Bon. Donc il y a cet effet d'absorbement léthargique. Et ce qui est tout à fait, ça rejoint ta première question, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est d'observer, comme le fait d'ailleurs Michael Fried, que au fond, lorsqu'on a affaire à une représentation d'endormie, ça vaut aussi pour d'ailleurs pour l'enfant qui joue aux cartes, un état d'absorption en peinture, eh bien, c'est comme si le médium pictural, qui par principe est immobile, une image, c'est une image fixe ici, une image immobile. Bon, le médium pictural rejoignait par un effet de coïncidence qui est très porteur en termes de sens, rejoignait ce qui est représenté. Ici, le dormeur ou l'enfant qui joue au toton, à la toupie ou aux cartes, etc. À tel point qu'au fond, c'est comme si, précisément par ces états et la durée qui est présente dans ces états, l'image pouvait à tout moment se sortir de cette immobilité. Le dormeur peut s'éveiller, la toupie va s'arrêter de tourner, la carte va tomber, etc. Donc ça rejoint par cette convergence du médium et puis du sujet représenté, ici le dormeur, et c'est vraiment l'état paroxystique de l'absorbement ou de l'absorption, on a vraiment cet effet d'animation hein, qui est extrêmement saisissant pour la peinture et qui a pour but de capter l'attention du spectateur. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pour les représentations des endormis, des belles endormies dans la troisième partie de l'ouvrage.
Pour terminer, une dernière question pour ma part, avant de passer la parole à la salle. Au fond, l'ambivalence du rapport au sommeil demeure aujourd'hui. Puis tu parles d'ailleurs de perspectives contemporaines hein, dans ta conclusion. Il y aurait d'un côté les éveillés, ceux qui voient, et puis les autres seraient endormis, au fond, pris dans des illusions... et donc on continue à avoir une représentation relativement péjorative du sommeil, mais justement je voulais revenir sur des représentations amélioratives ou positives du sommeil associées à une certaine forme de paresse, d'oisiveté, de repos. Parce que justement, pour faire référence à l'actualité, je veux dire, on a beaucoup critiqué justement ceux qui défendraient des retraites plus longues au nom du droit à la paresse. Mais en face, on revendiquait un droit au repos. Et donc justement, le sommeil, en tant qu'il est associé au repos, à une certaine forme d'oisiveté, voire de paresse, peut aussi, tu en parles, faire l'objet de représentations positives ou amélioratives. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus?
Oui, effectivement, ça me fait penser. Évidemment, je ne parle pas du tout de la question des retraites dans l'ouvrage, hein, et bien compris. Mais effectivement, cette question de la paresse liée aux âges de la vie, hein, ça, j'y consacre, je m'y intéresse parce qu'effectivement. Je me suis aperçue dans mes recherches que, alors il y a deux figures, il y a l'enfant, j'ai parlé du fœtus, mais l'enfant également, l'enfant, et puis c'est un problème, on voit cela arriver dans les premiers traités de pédiatrie, la question du sommeil de l'enfant et de son lien possible avec la maladie, de la croissance, de la bonne croissance et de l'éducation de l'enfant, donc comment limiter son temps de sommeil, et puis corrélativement, je dirais, c'est vrai qu'il y a cette association qui s'opère avec la vieillesse, le grand âge. Alors, il faudrait distinguer d'ailleurs parce que les termes sont lourds de sens en latin. Les termes qui sont repris à la Renaissance, senex, hein, l'homme âgé, ce n'est pas et la vieillesse dans ce terme, c'est pas décrépitas, hein, c'est pas la décrépitude, c'est pas le dernier âge de l'homme, de la vie de l'homme. Et c'est bien plutôt parfois pensé comme étant la maturité. Alors, bon, évidemment, ça dépend des textes et des images, mais on a aussi la représentation, l'idée que ces naissances ou la vieillesse peut être un âge de la maturité. Alors, pour revenir au lien avec la paresse et l'oisiveté, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler, je ne l'ai pas montré, mais de ne pas parler très rapidement d'une image qui, en fait, a été le point de départ de la recherche, enfin, de cette recherche, il y a très longtemps. Mais quand j'ai, au tout début, vraiment, de mes recherches, c'était pendant un séminaire d'histoire de l'art auquel j'assistais. Et puis, il était question du sommeil de Joseph dans l'adoration des bergers de Mantegna. Et Joseph dort. Alors, évidemment que... Et Joseph est un vieil homme. Il est représenté chenu, barbu, grisonnant. Bon, c'est un homme âgé. Évidemment, il ne conçoit pas avec Marie, hein, il est le père adoptif de l'enfant Jésus, et il est placé dans beaucoup de représentations, pas seulement celle-là, mais il est souvent placé en retrait dans ces scènes de nativité ou d'adoration. Il est placé en retrait comme s'il ne participait pas tout à fait à la nouvelle alliance. Et alors, évidemment que le sommeil de Joseph, il a pu être lié au songe, c'est le songe angélique, il faut fuir en Égypte, etc. Mais pas toujours ou pas seulement. Et donc, c'était vraiment le point de départ de la recherche, puisque il y a d'ailleurs un très beau livre de Giovanni Carelli qui a été consacré à la torpeur des ancêtres, magnifique ouvrage, où Carelli montre que la figure de Joseph, bien, et son sommeil, et le sommeil du vieil homme, de l'homme âgé, est lié notamment à, dans ce contexte judéo-chrétien, à l'idée de l'ancienne alliance et de la généalogie du Christ. Mais pas seulement de manière négative, de manière positive aussi, parce que c'est la généalogie matérielle du Christ, et c'est le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc effectivement, il dort d'un sommeil qui n'est peut-être pas nécessairement celui de la paresse, même s'il est lié à la paresse et à l'acédie, notamment, également. Il est lié à la chair, au poids de la carnalité, mais il annonce aussi, par ce lien qu'il opère, eh bien, la venue du Christ, qui d'ailleurs lui aussi dort, hein, c'est adoration du Christ enfant, par la Vierge, et qui par ce sommeil préfigure la résurrection, donc toute la voie du salut pour l'humanité. Voilà, donc c'est à nouveau, on retrouve ici un tressage assez riche de valeurs positives et négatives, mais c'est une figure vraiment... très ambigu et riche de sens, qui m'a engagé d'ailleurs sur ces recherches.
Merci beaucoup.
Merci Pierre.
C'était passionnant.